Notre santé dépend largement de notre environnement. 70% des maladies non transmissibles sont d'origine environnementale. Ça concerne les maladies cardiovasculaires ou métaboliques, les cancers ou encore les problèmes respiratoires chroniques et aussi la santé mentale. Mais sommes-nous tous égaux face au changement climatique ? Je suis Emma de Radio Phoenix à Caen. Je suis Anaëlle de Radio Phoenix et vous écoutez Génération plus 3 degrés, une série co-réalisée par Radio Campus Angers, Radio Phoenix et Radio Campus Orléans. Dans cette deuxième trilogie, nous nous intéressons à l'impact du changement climatique sur la santé des femmes. Comment le dérèglement climatique accentue les violences sexistes et sexuelles ? C'est la question que nous nous posons dans ce troisième épisode. Depuis 2008, plus de 21 millions de personnes sont déplacées chaque année de force à cause des inondations, des tempêtes, des incendies ou des températures extrêmes. Les réfugiés climatiques pourraient être 260 millions en 2030 et jusqu'à 1,2 milliard en 2050.
Je pense aux travaux en sociologie, en géographie sociale qui portent sur les questions de femmes et migration.
Noémie Moutel, docteure en humanité écologique et agrégée de civilisation des mondes anglophones.
Toutes ces recherches qui vont utiliser le prisme du genre sont relativement récentes, elles ont entre 30 et 50 ans. En France, c'est la sociologue Christine Delphi qui va vraiment amener la notion de patriarcat et de féminisme en sociologie dans les années 1970. Aujourd'hui, étudier les flux migratoires au prisme du genre et se demander est-ce que les conditions de migration sont différentes pour des hommes ou pour des femmes ? Cette question, elle est relativement récente. La réponse est absolument oui. Les risques de violences sexistes et sexuelles sont infiniment plus grands pour des personnes identifiées comme femmes lors de circulations migratoires. Et on peut parler des conditions vis-à-vis des passeurs, passeuses. On peut parler de leurs conditions dans les différents pays qu'elles auront à traverser. Et on parle aussi des conditions dans lesquelles elles vont être plus ou moins accueillies dans l'espace Schengen, dans les zones protégées, où elles seront là aussi l'objet de violences policières accrues. La stigmatisation des femmes et le fait qu'elles soient perçues comme des êtres inférieurs et des êtres que l'on peut humilier, violer, agresser physiquement, c'est une urgence encore plus colossale dans les questions migratoires que dans un contexte social et d'état de droit classique.
Mais peut-on faire un lien entre domination de la nature et domination des corps ?
Si on veut définir l'écoféminisme, on peut dire que c'est l'idée que la domination patriarcale, domination du groupe social des hommes vis-à-vis du groupe social dit des femmes, est similaire, identique, comparable à la domination qu'exerce l'espèce humaine sur toutes les autres formes du vivant. Donc en gros, c'est de dire la violence exercée par les hommes envers les femmes est comparable à ce que l'espèce humaine fait à l'égard de toutes les autres espèces. C'est là où on va voir aussi une jonction qui peut se faire entre des luttes féministes et des luttes antispécistes. Comment est-ce qu'on va essayer non seulement de dire que les femmes ont tout autant le droit à leur intégrité physique et psychique que les hommes, mais on va aussi essayer d'aller dire que les règnes végétaux, les règnes animaux, les règnes minéraux ont droit à leur intégrité physique, voire même psychique, puisqu'il y a énormément de recherches qui sont faites sur les capacités à sentir des autres formes du vivant. Est-ce qu'un arbre perçoit ? Est-ce que les animaux ont des sentiments ? Est-ce qu'il y a des sentiments d'attachement ? Est-ce qu'on peut communiquer avec les animaux ? Est-ce qu'on peut communiquer avec les arbres ? Est-ce qu'on établit des relations particulières avec des formes de vie qui ne sont pas humaines ? Et donc là, l'approche écoféministe vient en quelque sorte tout bousculer et rebattre les cartes. Les mutations climatiques, ou la crise écologique, comme on peut l'appeler aussi, qu'on vit aujourd'hui, elle n'est pas le résultat d'une activité humaine qu'on dirait homogène. Tout le monde n'a pas la même responsabilité dans ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Il y a un système qu'on appelle le système patriarcal, il y a un système qu'on appelle le système colonial, qui fait que ce sont majoritairement des hommes blancs et dominants, souvent économiquement aussi, qui sont particulièrement responsables de la crise écologique aujourd'hui. Et à l'inverse, on va voir que ce sont particulièrement des personnes minorisées, des personnes racisées, des femmes, des enfants, qui sont les victimes et qui sont aux premières lignes des conséquences de ces désastres écologiques, de ces dangers qui sont de plus en plus nombreux.
On parle même aujourd'hui de la notion de viol de la Terre.
Cette expression, elle a été inventée par des géologues en 1920-1930. C'est des géologues qui travaillaient sur des cas d'érosion des sols. Donc aux États-Unis, on a un phénomène qui s'appelle le Dust Bowl. C'est un peu au début de l'industrialisation, on fait des grandes cultures agricoles, des cultures intensives, et on se rend compte que ça génère énormément de poussière et que ça érode les sols. Et il y a deux géologues qui vont faire a world survey, une enquête mondiale sur l'érosion des sols. Et quand ils vont livrer leurs résultats, ils appellent leur livre The Rape of the Earth, le viol de la Terre. Ensuite, plus récemment, il y a deux chercheurs-chercheuses, Claude et Lydia Bourguignon, qui ont fait ce travail-là en France, qui ont travaillé particulièrement dans la Beauce, pour montrer que lorsqu'il y a des formes d'agriculture monoculture intensive, il y a un geste qui équivaut à violer la terre, c'est-à-dire de labourer la terre très très profond, alors qu'elle n'a pas été nourrie par l'ensemble de vivants végétaux qui viendraient en fait pousser si on n'avait pas répandu autant de pesticides, si on n'avait pas choisi la monoculture, si on n'avait pas autant mécanisé l'agriculture. Et ce parallèle entre un viol de la terre et... Moi, ce sur quoi j'ai travaillé, c'est la systématisation du viol en tant qu'arme de guerre dans les cas de conflit. Le viol utilisé en tant qu'arme de guerre, ça a été reconnu dans les années 1990 à l'égard des conflits au Rwanda et en ex-Yougoslavie. Donc en fait, je voulais regarder comment est-ce que les inégalités de genre, en effet, participent à une dégradation des conditions climatiques sur Terre, et comment est-ce que tout ça relève finalement de représentations culturelles. Il y a des concours de labour. Il y a des personnes qui vont pouvoir être fières de labourer leur terre très profond. Il y a, dans le milieu militaire, une forme de complaisance à l'égard du viol des populations qui vont être conquises, qui vont être dominées. Et ça... Finalement, ça nous amène vraiment à l'endroit très contemporain de MeToo, de pourquoi est-ce que c'est tellement important de parler de viol, de parler de violences sexistes et sexuelles, de parler de consentement. C'est parce que ça nous concerne individuellement, mais en fait, ça nous concerne collectivement. Qu'est-ce que c'est que cette sorte de philosophie qui nous dit qu'il est possible de transgresser les limites d'une autre personne, que cette personne soit humaine, animale, minérale ou végétale?
Mais peut-on encore espérer que la situation s'améliore ? Sur qui peut-on encore compter ?
Moi, j'ai 40 ans et je pense que les personnes qui sont en train de se former pour exercer des métiers qui vont influer sur les politiques publiques sont de mieux en mieux informées, de mieux en mieux préparées, de plus en plus rapides, agiles à pouvoir penser ces questions-là. Je pense que pour avoir confiance, il vaut mieux regarder vers les générations qui arrivent que vers celles qui sont déjà en place. Je pense que pour des personnes très établies, c'est difficile de mettre des lunettes féministes, de mettre des lunettes queer, de mettre des lunettes intersectionnelles, de mettre des lunettes décoloniales. Je vois peu de personnes d'une cinquantaine, soixantaine d'années qui sont capables, prêtes, motivées, disponibles pour faire ce type d'effort. Par contre, je croise beaucoup de personnes d'une quinzaine, vingtaine, 25, 30 ans qui, en fait, sont déjà en train d'agir. Je pense, par exemple, un espace que je connais assez bien, c'est les formations sages-femmes, les personnes qui vont décider d'aller vers les soins gynécologiques, l'accompagnement. Il y a des personnes vraiment conscientes des questions d'orientation de genre, d'identité de genre, et donc d'exposition. Donc j'aurais confiance en regardant de ce côté-là. Ce discours, il est accessible à tous et toutes, et pourtant, on dirait qu'il y en a encore qui ne l'entendent pas.
C'était le dernier épisode de cette trilogie dédiée à la santé des femmes. La semaine prochaine, Génération Plus 3 degrés continue avec une nouvelle trilogie proposée par Radio Campus Orléans, consacrée au futur désirable. C'était Génération Plus 3 degrés, une série audio proposée par Radio Campus Angers, Radio Phoenix et Radio Campus Orléans.